êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalungu. Ils viennent d'être à 17h. Le journal de ce mardi 25 avril, c'est tout de suite. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu la semaine dernière à Asmaka, une ville frontalière avec l'Algérie qui enregistre de plus en plus de migrants ouest-africains refoulés. L'objectif est d'accélérer le processus de reconduction de ces migrants vers leur pays d'origine. Ensuite, nous irons à Gaïa où, selon les services des impôts, un incivisme fiscal gagne du terrain ces dernières années. Enfin, dans le magazine de ce journal, nous verrons l'importance d'une information crédible et factuelle dans un contexte de conflit avec un spécialiste des questions sécuritaires au Sahel. Bonsoir à tous et bienvenue. Au total, 1250 billets de 100 $, soit 125 000 $, ont été ramassés par les enfants de Rugger Tambasa le mercredi 19 avril dans un village situé à l'est de Korgom. L'argent est déjà à la préfecture de Tessawa et sera acheminé au gouvernorat de Maradi. Présentement, les autorités ont lancé un appel à l'endroit des populations pour rester calme. Écoutons Mokhtar Jibo, acteur de la société civile de Tessawa, au micro de Ilya Momouni.
Une semaine de cela, cet argent a été ramassé dans la commune de Korgom, plus précisément dans un village à 5 ou à 3 km de la commune de Korgom. Donc nous avons mené une investigation, descendu sur le terrain pour pouvoir vérifier la fiabilité de cette information. Et heureusement, on l'a reçu. Donc étant vraiment prudent, on est obligé de venir prendre attache avec les autorités importantes en place. Et curieusement, ce matin, on est venu, on a rencontré le SIG par rapport à cette affaire. Il nous a tenu informés, oui, effectivement, cet argent a été amené par le chef de canton de Korgom à la destination de la préfecture et à la présence de toutes les autorités en place du département de Tessawa. Donc, après deux comptes, après vérification de cet argent, on a constaté que cet argent était faux. Donc, on prend conscience de transmettre ce message à la population de Tessawa et aussi à la commune de Korgom d'être prudent et d'être attentif.
Depuis le début de l'année 2023, les expulsions des migrants ouest-africains de l'Algérie ont pris une dimension critique à Asmaka, village frontalier entre le Niger. Le ministre de l'Intérieur, Hamadou Adam Souley, en mission la semaine dernière dans la localité, a lancé un vibrant appel aux différents pays de la CEDEAO pour accélérer le processus de reconnaissance de leurs ressortissants qui optent pour le retour volontaire organisé par l'OIM. On l'écoute au micro de Moussa Maman.
Depuis le début de l'année 2023, les expulsions des ressortissants ouest-africains ont pris une dimension critique avec plus de 7172 migrants refoulés. La disponibilité des services sociaux de base est extrêmement limitée à Asmaka. Actuellement, le village d'Asmaka compte beaucoup plus de migrants que de communautés locales. L'accès aux infrastructures sociales de base dans cette zone désertique est déjà très limité. Cette situation a pour corollaire une forte augmentation de la criminalité transfrontalière et du banditisme de tout genre dans la zone. Je lance également un vibrant appel aux différents pays de la CEDEAO pour accélérer le processus de reconnaissance de leurs ressortissants qui optent pour le retour volontaire organisé par l'OIM. À l'OIM, je demande de revoir son programme de retour volontaire qui, à tort ou à raison, constitue une des causes de l'arrivée des migrants vers Agadez dans le seul but de bénéficier d'une réintégration socio-économique.
Ainsi, c'est plus de 5000 personnes refoulées de l'Algérie qui vivent dans des conditions de violation des droits humains à Asmaka. C'est le constat fait par une mission conjointe de la Commission nationale des droits humains CNDH à Antenne d'Agadez et Alternative Espace Citoyen du 13 au 17 avril. Moussa Bachir, chef antenne régionale CNDH d'Agadez, condamne les actes de rapatriement de ces migrants. Il explique au micro de Moussa Maman.
Plus de 5000 personnes qui ont été refoulées d'Algérie donc à Asmaka dans des conditions de violation des droits humains qui mettent en danger leur vie. Donc d'après quelques témoignages recueillis par un groupe de migrants, plus de 1000 migrants de plusieurs nationalités, dont parmi eux des femmes, des enfants, sont déversés par les autorités militaires algériennes à la frontière nigéro-algérienne nommée Point Zéro, située à 15 km d'Asmaka en plein désert. Ces migrants, laissés à leur sort, sont obligés de marcher 4 heures de temps à 5 heures de temps pour arriver à Asmaka, sans eau ni nourriture. Et deux fois avec des fractures, avec des blessures. Parce qu'au moment où on les arrête sur les lieux de leur travail, ou bien deux fois en pleine rue, et on les amène en prison, entassés dans une cellule. Et nous condamnons ces genres d'actes parce que c'est des actes inhumains. Et condamnés aussi par les dispositions au niveau régional, national et au niveau international.
Sur tout un autre plan, au lendemain de la fête de Ramadan, le préfet Darlit a profité de l'occasion pour appeler ses concitoyens à une collaboration avec les forces de sécurité. C'est la voie pour lutter contre le banditisme qui connaît un regain dans le département, a-t-il indiqué. Nour Malam Sani, préfet Darlit, est au micro de Moutari Abdoulaye.
Ce que nous, les civils, devrons faire, c'est d'être vigilants, observer, écouter, de devenir en sorte les yeux et les oreilles des forces de défense et de sécurité pour qu'elles puissent mieux nous sécuriser, car ils ne peuvent pas être partout à la fois au même moment. Nous devons savoir que la question sécuritaire ne repose pas seulement sur les FDS. Il y a des endroits où les FDS ne peuvent pas passer, à l'exemple des quartiers comme Karé, Bukoki ou Tingalen, où les FDS peuvent sillonner. Mais vous qui vivez dans ces endroits, dès que vous observez une situation anormale qui a trait à l'insécurité, il faut le plus vite possible alerter afin que des mesures idoines soient prises avant que cela ne se produise. Et j'en appelle à tous pour que nous soyons unis dans une cohésion sociale absolue, car nous sommes tous des citoyens nigériens. Il n'y a pas de différence. Et nous sommes des musulmans. Je vous demande, par la grâce d'Allah, faisons en sorte que notre pays puisse finir avec cette question de terrorisme.
Après le jeûne obligatoire du mois de Ramadan, la sunna du prophète recommande si possible de jeûner 6 jours pour accompagner le mois dans une période de 29 à 30 jours. Cependant, entre le remboursement du jeûne manqué pendant le mois et le jeûne destiné à l'accompagnement, quel est le plus prioritaire? Écoutons Oustaz Mustapha Ahmadou, prédicateur religieux au micro de Rafika Taher.
Si par exemple le mois est fini et qu'on n'a pas pu faire ces quelques jours qu'on a chômé, c'est ça qui est prioritaire. Parce que ça, c'est le Coran qui le dit. C'est le verset 181 de la sourate La Vache, dans lequel donc Allah a dit que quiconque n'a pas pu jeûner quelques jours, compte les jours et rembourser ça après le jeûne. Là, c'est une obligation. Alors que les jeûnes d'accompagnement qu'on fait 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est-à-dire le mois de la fête, si vous avez la possibilité de le faire, vous le faites. Si vous n'avez pas la volonté de le faire, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna de prophète la sunna. On fait l'obligation, on laisse la sunna. Donc là, les priorités, c'est ce que vous n'avez pas pu jeûner dans le mois de Ramadan qui est prioritaire. Si c'est 2, si c'est 3, si c'est 4, si c'est 5, c'est ça qu'il faut reprendre d'abord. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec, si vous avez la possibilité et la force de le faire, donc enchaîner avec les six jours d'accompagnement. C'est ça qui est permis en islam et c'est ça qui est prescrit dans le Coran.
Le mariage en islam est une sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La religion autorise la femme musulmane à introduire en cas de besoin une demande de mari auprès d'un imam. Selon le prédicateur Oustaz Haladou Yahya, cela pourra non seulement la protéger, mais l'aider à supporter ses besoins alimentaires. Il est interrogé par Hawa Ousmane.
Le fait que des femmes soient parties voir un imam est légal parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les ulémas sont les héritiers des prophètes, surtout au sujet du mariage, qui est une question d'importance capitale pour les musulmans, pour celui ou celle qui ne peut pas s'abstenir, donc qui veut se protéger, même donc d'un point de vue besoin naturel, ou encore le besoin de se préserver, ou le besoin même alimentaire. C'est que sur le Coran a dit aux hommes, mariez ceux d'entre vous qui sont célibataires. Donc toutes les raisons sont là, qui motivent non seulement les hommes, mais qui donnent droit à la femme de manifester son intention. Parce que le tout, c'est dans le cadre religieux.
Après le mois de Ramadan, le moment est venu de reprendre de nouvelles habitudes alimentaires. Pour cela, selon les spécialistes, nous devons consommer beaucoup d'eau, surtout en cette période de chaleur, avant que notre organisme s'habitue à l'alimentation. Cela a pour avantage d'éviter les troubles digestifs, comme l'explique Abdelrazak Bello, nutritionniste. Il est au micro de Fatima Lemiaro.
Notre organisme, pendant ce Ramadan, a souffert d'un certain manque, notamment qui s'est manifesté par une diminution de la teneur en eau, donc une déshydratation. Donc il est important après le jeûne d'avoir une bonne hydratation. Cette bonne hydratation est d'autant nécessaire que l'après Ramadan, on est encore dans les périodes de forte chaleur. Donc boire de l'eau, beaucoup d'eau, ça va permettre non seulement de se réhydrater et d'éviter un certain nombre de troubles digestifs. Également pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup qui ont souffert de troubles digestifs de type constipation. Donc c'est sûr que l'après Ramadan, la consommation de l'eau peut être un facteur favorisant la diminution de ces troubles-là.
À Gaya, malgré les efforts des autorités et l'existence d'un grand potentiel de recouvrement des recettes fiscales, la progression des recettes publiques demeure faible au fil des années. C'est le constat fait par la direction départementale des impôts de Gaya. Moussama Mankabir, receveur des impôts, est au micro de Fadel Alou.
Gaya représente la principale source de mobilisation des ressources internes de la région vu sa position économique. Tout d'abord, les premiers constats que nous allons faire, la population est un peu hostile au paiement des impôts et taxes. Les gens ne font pas les premiers pas, il faut toujours aller vers eux. Les gens sont habitués à être harcelés afin de venir payer, alors que c'est une obligation civique. On doit normalement s'en acquitter sans aucune pression de la part de l'administration fiscale. La part de ceux qui viennent payer d'eux-mêmes est très très minime. Peut-être même si je peux dire 1% de ce que nous avons mobilisé depuis notre arrivée.
À présent, le magazine de ce journal, l'information crédible et factuelle, occupe une place importante dans la résolution d'un conflit. Selon Ivan Guichois, chercheur et maître de conférences à la Bruxelles School of International Studies et spécialiste des questions sécuritaires au Sahel, une information ne doit pas être un outil au service d'une guerre. Il est joint par téléphone. Au téléphone par Ternan Foudey Ahmed.
Il faut un système d'information crédible et il faut un système d'information factuel. L'information ne doit pas être un outil au service d'une guerre. L'information a une valeur en elle-même. L'information, c'est ce qui permet aux gens de faire des choix raisonnés, raisonnables, et c'est une information qui doit être construite sur des bases rigoureuses. Et donc nous, on dit, voilà, ça ne sert à rien d'utiliser l'information dans une guerre d'autres acteurs. Parce que ça veut dire que l'information devient un moyen pour une fin. Les gens doivent être capables d'accéder à de l'information rigoureuse, précise, factuelle, pour faire leur propre choix. Cessons d'instrumentaliser l'information avec des narratifs, des contre-narratifs dans le cadre d'une guerre informationnelle. Contentons-nous de fournir aux populations l'information qu'ils méritent, l'information rigoureuse, précise, dans les langues locales.
Donc, une information fiable, factuelle et crédible peut apporter un plus dans la résolution de telles crises, comme la crise qui sévit au Niger ou au Mali.
On n'est pas capable de dire que c'est ça qui va permettre de résoudre la crise. Mais en tout cas, ce qu'on dit, c'est que si l'information est utilisée dans le cadre d'une guerre informationnelle avec des camps nettement identifiés, ça veut dire que l'information en elle-même perd de sa valeur. Ça veut dire que l'information devient une opinion. Et il n'est pas question que le journalisme d'investigation, que la récolte des faits, soit instrumentalisé et transformé en opinion comme une autre. Ce n'est pas le cas.
Vous avez cité la Fondation Hirondelle, particulièrement Studio Kalangou au Niger et Studio Tamani au Mali. Aujourd'hui, quelle est la place qu'occupent ces médias?
Alors, la Fondation Hirondelle, on la mentionne dans les recommandations parce qu'on estime que l'approche générale, la philosophie générale est celle qu'il faut essayer de systématiser dans le sens où c'est une information diffusée sur tout le territoire, dans les langues locales, basé sur des faits, n'est pas instrumentalisé politiquement. Donc c'est cette philosophie générale-là dont on chante un peu les louanges. On n'a pas à étudier, contrer ces fausses croyances, c'est finalement d'informer les gens avec des systèmes d'information de proximité. Plutôt que d'essayer à tout prix de mettre dans la tête des choses qui soient la position de l'État ou la position des forces étrangères. Vous voyez la différence?
Ici prend fin ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Je vous laisse en compagnie de Ternan Foudey Ahmed pour le journal en langue tamashek.